Le Palika entre en campagne pour défendre le projet d'accord de Bougival en vue de la consultation de 2026. Un accord bon pour la Nouvelle-Calédonie, selon le mouvement indépendantiste. Un incendie dont l'origine criminelle ne fait aucun doute. Une partie des locaux de Plastinor à Pointe-Boute a brûlé la nuit dernière. La zone VKP fait face à une recrudescence des méfaits depuis plusieurs semaines. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, poursuit son déplacement en Polynésie française où les autonomistes des Marquises se sont dit fidèles aux Marquises et à la France. À l'international, le président ukrainien propose de nouveau pourparlers à la Russie. L'objectif pour Kiev est de relancer des négociations dès la semaine prochaine. Le sport à suivre ce soir, la 15e étape du Tour de France. À une semaine de l'arrivée aux Champs-Élysées, le Slovène Tadej Pogacar écrase la concurrence. Plein gaz au karting de Nakutakoin, le circuit accueillait une nouvelle manche du championnat de Calédonie avec de jeunes pilotes qui n'ont pas froid aux yeux sur l'asphalte de Dimbéa. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité, le Palika qui tenait un congrès extraordinaire à Vaud hier. Il s'agissait avant tout de faire le point sur le projet d'accord de Bougival devant les militants. Le Palika qui s'engage désormais pleinement à défendre cet accord. Un projet bon pour la Nouvelle-Calédonie selon le mouvement indépendantiste. Judicaël Séléphène, l'un des porte-parole du Palika.
Au regard du contexte que l'on connaît depuis un an et même depuis la sortie de la troisième consultation, les militants ont été soulagés déjà de savoir dans un premier temps qu'un projet d'accord a été trouvé et donc on était dans une ambiance, on va dire, positive. Les militants ont validé l'engagement. Ça a été expliqué par les négociateurs que c'est un compromis. C'est un accord qui est équilibré, qui ne satisfait personne, mais qui arrange tout le monde et surtout la Nouvelle-Calédonie. C'est le résultat de plusieurs heures, de plusieurs jours de négociations qui ont été âpres, difficiles. La responsabilité a été prise par nos négociateurs à Paris. C'était important pour les négociateurs d'avoir l'approbation du parti, le soutien des militants, avant d'aller informer et présenter, défendre ce projet auprès de la population calédonienne qui aura l'occasion de bénéficier d'informations, de clarifications, mais surtout, la population calédonienne sera consultée. C'est le temps aujourd'hui de la campagne d'information sur le contenu de ce projet d'accord.
Si les dernières déclarations, notamment du FLNKS, ont pu de nouveau laisser planer le doute sur ce projet d'accord, le Palika réaffirme, lui, qu'il honorera la parole donnée et qu'il défendra le fruit des discussions des 10 jours de Bougival. Même s'il rappelle qu'il restera vigilant à l'ensemble des points du projet, le mouvement indépendantiste lance dès à présent sa campagne pour défendre la perspective de cet accord en 2026. On retrouve Judicaël Séléphène.
On s'est tous engagés à porter cet accord. C'est la responsabilité des délégations et surtout des personnes qui ont négocié ce projet d'accord. Et donc cet engagement qui a été pris à Paris, il faut le poursuivre. Donc c'est un appel à tous les responsables qui étaient présents lors de la négociation de porter. Charge à nous de le porter et le défendre. Après, libre aux Calédoniens de pouvoir donner leur avis. Les Calédoniens seront consultés. Donc c'est un premier temps qui est ouvert pour nous, pour tous les responsables qui étaient présents, de défendre ce projet. Et les Calédoniens seront libres d'approuver ou pas ce projet d'accord. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase d'explication. Nous, on s'est engagés pour notre part. On n'a pas l'intention de revenir sur cette parole qu'on a donnée à Paris. C'est un moment historique. C'est le retour avec un projet d'accord des négociateurs. On est engagé dans la négociation depuis 2023. Et cet accord, nous, on a considéré qu'il remet en aucun cas une trajectoire pour l'accession à la pleine souveraineté et à l'indépendance. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que cet accord nous impose à nous, les Calédoniens, de choisir notre avenir. C'est un choix qu'on va devoir faire ensemble.
Judicaël Séléphène, l'un des porte-parole du Palika. Le mouvement indépendantiste va désormais organiser et lancer sa campagne pour obtenir la plus large approbation de la population lors de la consultation prévue en 2026. Sur le même sujet, deux rendez-vous d'antenne demain sur RRB. C'est Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription, qui sera notre invité du matin. Il est l'un des signataires du projet d'accord de Bougival et reviendra sur les discussions qui se sont déroulées à Paris et l'actualité politique en général. Il sera donc notre invité à 7h30. Et à la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. Sonia Baquès, la chef de file des loyalistes, était l'invitée d'Elisabeth Noir ce vendredi midi. Elle a évoqué 5 avancées majeures dans le projet d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui a été signé à Bougival. Une émission que vous pouvez également retrouver en podcast audio et vidéo sur notre notre site internet www.rrb.nc. L'incendie de la société Plastinor maîtrisé à Pointe-Boute. L'entreprise a été victime, on le rappelle, d'un incendie la nuit dernière et au moins 500 mètres carrés de surface ont été détruits. L'origine du feu est probablement criminelle, Charlotte Coulson.
Aux alentours d'1h30 ce matin, les riverains sont alertés par des bruits d'explosion en provenance du site de l'entreprise. Les pompiers de Connay sont vite mobilisés sur place et découvrent une structure déjà bien endommagée par les flammes. 500 mètres carrés partis en fumée. Cela correspond à la surface de la salle de vente de Plastinor, entièrement détruite. Les soldats du feu, aidés des renforts de la sécurité civile, ont tout de même réussi à limiter la propagation des flammes qui menaçaient les salles de stockage et de production d'une surface d'environ 2000 mètres carrés. Le travail n'a pas été de tout repos, car en plus de la chaleur, les fumées dégagées par le plastique brûlé sont toxiques. Je rappelle que la société Plastinor est en effet spécialisée dans la production de tuyaux en polyéthylène, des produits qui dégagent du monoxyde de carbone. Lorsqu'il brûle, les soldats du feu, sous le commandement du chef de corps des sapeurs-pompiers de Connay, Silvio Loquet, ont donc dû faire preuve de vigilance.
Toute la surface de vente a été entièrement incendiée. La zone de production et de stockage, elle a été impactée par les fumées qui ont envahi tous les locaux. Ça a été très toxique parce que c'est du plastique. Lui, ils vendent des duos, des raccords, beaucoup de matières plastiques. Donc on a été obligé, et c'est normal, d'équiper nos sapeurs-pompiers engagés avec les appareils respiratoires isolants. Donc ça a été très physique, avec une chaleur qui est très intense, avec des hauts risques. Mais en fin de compte, on a pu maîtriser l'incendie et le contenir là où il était. On a eu la chance, on va dire ça comme ça, c'est que cette nuit, il a bien plu. Donc il y a une partie de la fumée qui est restée sur place. Mais bon, il y avait également d'autres espaces-temps où il n'y avait pas de pluie. Donc les fumées se sont propagées. Dans l'axe de propagation, oui, il y avait des habitations. Il y en a qui ont dû se réveiller ce matin avec des véhicules noircis.
Le feu a finalement été maîtrisé aux alentours de 5h du matin. Son origine est probablement criminelle. Des témoins ont en effet aperçu 4 individus prendre la fuite après le départ de l'incendie. Julien, habitant de Pointe-Boute, fait partie des personnes ayant alerté les pompiers et les gendarmes.
Donc moi, j'étais dans un dock à l'arrière de Plastinor chez des amis. Là, et depuis une heure, on entendait des jeunes taper, crier, taper sur des tôles en fait. Peut-être une demi-heure après, c'est là qu'on a entendu des verres brisés. C'est là que moi, je suis monté vers Plastinor et c'est là que j'ai vu un départ de feu. C'est là que 4 jeunes sont sortis à l'arrière de Plastinor et ils ont sauté la barrière. Mais après, voilà, ils sont partis, quoi. Apparemment, depuis mardi dernier, ils ont déjà cassé une vitre de Plastinor pour voler, disons. En ce moment, sur la zone qu'on est Pointe-Boute, il y a énormément de vols de véhicules. Moi, j'ai eu une tentative de vol sur mon véhicule. La zone décapée, elle a du mal à redémarrer. Et là, on brûle une entreprise qui fournit beaucoup de matériel. Donc, ça va pénaliser encore pas mal d'entreprises et qui vont devoir desservir sur la commune de Nouméa, quoi.
Une enquête a donc été ouverte par la gendarmerie pour déterminer l'origine de l'incendie. Le gérant de la société a aussi été contacté. Il n'a pas souhaité s'exprimer, mais tient tout de même à faire connaître sa colère et son ras-le-bol face à la répétition des actes criminels dont sont victimes les entreprises calédoniennes qui tentent de se reconstruire depuis l'année dernière.
Et je vous rappelle que mardi dernier, c'est l'incendie au dépotoir de Connay qui avait nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers du SIVM Nord, un feu d'origine criminelle qui avait dû être traité sur plusieurs jours avec des désagréments pour les riverains en raison de fumées toxiques qui s'échappaient du sinistre. Les faits divers également à l'île des Pins, une épicerie qui a été victime d'une tentative de cambriolage.
Une tentative qui aurait pu aboutir sans l'intervention du voisinage. Aux alentours de 21h, les riverains de la baie de Cuteau sont alertés par des bruits suspects venant du commerce. Ils se rendent sur place et mettent en fuite les individus entrés dans l'épicerie par effraction. Ils n'ont pour l'instant pas été interpellés. Une enquête de la gendarmerie est en cours.
RRB, il est 17h54.
L'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite et une double séance du congrès est inscrite sur l'agenda de la semaine qui débute demain, Léo Fichot.
Et demain, les élus se retrouvent pour étudier notamment un projet de loi du pays sur le transport des matières dangereuses et une proposition de loi du pays incluant des mesures de sauvegarde économique et de reconstruction. Vendredi, ils devront étudier deux propositions de loi du pays sur l'économie circulaire. Au chapitre social, un mouvement annoncé demain matin dans le nord des habitants de Koumak, Point-Dim, Meye Yengen notamment, seront reçus à 10h à la province nord par les élus, puis à 11h à l'hôpital de Koné par le directeur du CHN, Joachim Tutugoro. Il demande tout simplement la réouverture des urgences dans les hôpitaux de Koumak et de Pointe-d'Imier. Double actualité à l'UNC avec deux rendez-vous mardi, le Forum calédonien du changement climatique organisé par le gouvernement et l'UNC, et puis l'élection des représentants des étudiants dans les différentes instances de l'université.
Jeudi, on retiendra l'ouverture du salon Saveurs et Traditions à la Chambre des métiers de l'artisanat. Il se poursuivra jusqu'à dimanche.
Vendredi, samedi et dimanche, Stan Cabarlouette proposera son spectacle de danse Les Nuits de l'Avant-Scène avec les élèves de son école de danse. Trois soirées qui auront lieu au Centre culturel du Mont d'Or. Samedi prochain, le parc Brunelé de Nouméa accueillera le salon du tourisme et le week-end prochain sera aussi deux jours de fête à Thio qui organise sa foire annuelle. Et pour les fans de rallye, de sport mécanique, samedi prochain, le championnat de Calédonie des rallyes fera étape à Nessadiou sur la commune de Bouraï.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Dans le reste de l'actualité, un hommage aux Justes de France aujourd'hui, ainsi qu'aux victimes des crimes racistes et antisémites relayés à Nouméa. Depuis 2000, la journée du 20 juillet honore la mémoire de ces 13 000 déportés juifs lors de la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942. Charlotte Coulson.
Cette journée nationale rend aussi hommage aux hommes et aux femmes qui ont risqué leur vie pour aider les juifs persécutés lors de la Seconde Guerre mondiale. En Calédonie, cet hommage était relayé ce matin à la Croix de Lorraine. Le haut-commissaire Jacques Billan a présidé la cérémonie.
Ce dimanche 20 juillet, c'est une fois encore le souvenir qui nous rassemble, le souvenir de millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs victimes de la folie nazie. C'est aussi le souvenir de tous ceux qui, très nombreux, n'écoutant que leur cœur et leur conscience, sauvèrent nos compatriotes, je parle bien sûr des Justes de France. Le message de cette cérémonie aujourd'hui, c'est de faire encore et toujours comme les Justes ont su le faire à leur époque. C'est lorsque le doute survient, lorsque les heures sont difficiles, il n'y a qu'une façon de voir clair et de rester irréprochable, c'est agir et penser comme l'honneur le commande.
Et c'était aussi l'occasion pour le président de l'association israélite de Nouvelle-Calédonie, Philippe Metzman, de transmettre l'histoire de sa communauté.
On commémore aujourd'hui le souvenir de la rafle du Veldiv. C'est ce qu'on appelle vraiment le devoir de mémoire. Et puis s'associer en Calédonie, on va avoir des juifs qui viennent du monde entier, donc beaucoup aussi de la métropole. Et il est important aussi de saluer leurs ancêtres qui ont pu connaître la déportation. Ce qui est mon cas, par exemple, pour des grands-oncles et grandes-tantes qui sont partis dans les camps. Certains sont revenus, d'autres pas.
Et les représentants des autorités civiles et militaires, ainsi que plusieurs élus, ont aussi assisté à la cérémonie.
Il est 17h passé de 58 minutes. Une page de publicité dans ce journal avant d'évoquer l'actualité nationale et dans le monde. Et la suite du déplacement de Manuel Valls en Polynésie française. À tout de suite.
Gédimat, 51 rue Hoover à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasure, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et quincaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec vous, Michael Juneski.
L'actualité dans la région, en Polynésie française, où il poursuit son déplacement, Manuel Valls a visité les îles Marquises. Les habitants et les élus ont réaffirmé sur place au ministre des Outre-mer leur attachement à la France. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La mairesse de Iwaoa et membre du parti autonomiste Tapura, Joël Frémaux, a déclaré à Manuel Valls que, je la cite, « le marquisien est fidèle à sa terre, à sa culture et à la France ». Elle avait auparavant égratigné le projet de République fédérale Maui défendu par le Tavini d'Oscar Temaru. « Nous sommes marquisiens, nous sommes français ». Et le disons sans trembler, a-t-elle martelé. Elle a aussi renouvelé ses appels en faveur d'une reconnaissance institutionnelle de la singularité marquisienne. En réponse, Manuel Valls a voulu se montrer conciliant. « Je suis venu vous dire que l'État, c'est-à-dire la France, est présent pour vous accompagner », a-t-il martelé. Les Marquises, la Polynésie et la France marcheront ensemble, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À l'actualité en métropole, la hausse de la violence dans plusieurs villes de province et notamment à Limoges. Les CRS ont été déployés en renfort alors que des quartiers de la ville étaient le théâtre d'affrontements depuis le 14 juillet dernier entre des individus et les forces de l'ordre. 10 policiers ont été blessés. Les explications d'Antoine Bienveau pour Europe 1.
La nuit de vendredi à samedi a encore été marquée par la violence avec un nouveau guet-apens entendu aux forces de l'ordre par certains jeunes du quartier. Pendant plusieurs heures, les policiers ont fait face à des individus armés de pierres et de cocktails Molotov, comme le raconte Stéphane Rigaud, secrétaire régional du syndicat Unité Police dans le Limousin.
C'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est des guet-apens pour attirer mes collègues, donc c'était par rapport à un feu de poubelle. Et donc il y a à peu près une centaine d'individus qui les attendaient avec des barres de fer, des mortiers, des cocktails Molotov.
En plus des affrontements avec les policiers, les fauteurs de troubles s'en sont également pris à des automobilistes d'une route nationale adjacente. Effaré par ces scènes de violence, le maire de Limoges, Éric Roger Lomberti, a obtenu hier l'envoi d'une compagnie de CRS dans le quartier. Des renforts bienvenus, mais insuffisants, selon Stéphane Rigaud.
On voudrait des solutions pérennes, hein, et pour les solutions pérennes, il n'y a qu'une chose, c'est l'augmentation des effectifs. Ce que nous demandons depuis quelques mois, hein. Le dialogue est difficile, hein, puisque au moment où on les rencontre, c'est simplement pour des guet-apens. Donc c'est vraiment très compliqué pour nous.
Un dialogue rompu et des affrontements violents qui, dans la nuit de jeudi à vendredi, ont fait au moins 10 blessés dans les rangs des forces de l'ordre.
Antoine Bienveau pour Europe 1. À l'international, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que son pays allait proposer de nouveaux pourparlers à la Russie. L'objectif pour Kiev et d'avoir des négociations la semaine prochaine. Volodymyr Zelensky a indiqué dans son message quotidien aux Ukrainiens que le secrétaire du Conseil de sécurité du pays avait proposé une nouvelle rencontre avec la partie russe la semaine prochaine. Il faut relancer les négociations.
Les négociations doivent s'intensifier. Nous devons faire tout notre possible pour parvenir à un cessez-le-feu. La partie russe doit cesser d'éviter de prendre des décisions. Les échanges de prisonniers, le retour des enfants, la fin des tueries, tous ces sujets doivent être traités. Et une réunion au niveau des dirigeants est nécessaire pour garantir véritablement une paix durable. L'Ukraine est prête pour une telle rencontre.
Les deux dernières rencontres successives à Istanbul entre délégations russes et ukrainiennes n'avaient pas apporté d'avancée sur un cessez-le-feu, ne débouchant que sur des échanges de prisonniers et de corps de soldats tués. En bref, aux États-Unis, un conducteur fonce en voiture sur une foule dans une rue de Los Angeles. Au moins 30 personnes ont été blessées. L'individu âgé de 29 ans, toujours hospitalisé, a été inculpé pour violence volontaire, a indiqué la police locale. Il aurait agi intentionnellement, fonçant sur les personnes à proximité d'une boîte de nuit dont il venait de se voir refuser l'entrée. Dans la confusion, après les faits, il avait été neutralisé par des passants et même blessé par balle avant d'être interpellé par la police. Il est 18h passé de 3 minutes. Une dernière pause publicitaire avant de voir toute l'actu sport.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Mickaël Juneski.
Et à la une du sport, le Tour de France.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Et après 3 étapes de haute montagne, retour dans les plaines pour le peloton Léo Fichaud.
Le départ de la 15e étape sera donné depuis Muret à 22h30, heure de Nouméa, direction Carcassonne et sa cité. Le dernier coureur à s'être imposé dans la ville médiévale, c'était Jasper Philipsen au sprint sur le Tour de France 2022. Il avait alors devancé Wout van Aert et Mats Pedersen. Cette année, ça risque d'être compliqué pour les sprinteurs. Les punchers, eux, devraient pouvoir s'exprimer. Trois cols sont répertoriés, la côte de Saint-Féréol et la côte de Sorèze, classée en troisième catégorie. Puis le Pas du Centre, à 50 km de l'arrivée, col classé en deuxième catégorie, avec 2,9 km à plus de 10% de moyenne. Une étape qui devrait plaire à Quinn Simons, Mathieu Van Der Poel ou encore Wout Van Aert. Côté français, on suivra le porteur du maillot à poids, Lenny Martinez, ou encore Julien Lafilippe et Romain Grégoire. Je rappelle qu'au classement général, Tadej Pogacar possède toujours plus de 4 minutes d'avance sur son principal concurrent, le Danois Jonas Vingegaard.
On passe au sport mécanique et en MotoGP, le 12e Grand Prix de la saison, c'est ce soir en République tchèque.
Derrière Marc Marquez, quasi intouchable, qui a d'ailleurs remporté la Sprint Race la nuit dernière, mais qui s'élancera de la deuxième place puisque c'est Pecco Bagnaia qui a décroché la pole. On suivra nos deux Français, Fabio Quartararo, 3e sur la grille de départ, et Johan Zarco, 9e, juste derrière notre Marquez, le petit frère Alex. Départ du Grand Prix à 23h, heure de Nouméa. Sport mécanique toujours, pour signaler qu'après 17 spéciales, c'est Oliver Solberg qui est en tête du rallye d'Estonie. Il possède 21 secondes d'avance sur Ott Tanak et 25 sur Thierry Neuville. Le français Adrien Formeau est 5e à 1 minute 08 du leader.
En football, défaite des féminines de l'équipe de France contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro. Les Françaises se sont inclinées aux tirs au but. En demi-finale, l'Allemagne affrontera l'Espagne. Dans l'autre demi-finale, les Italiennes seront opposées aux Anglaises. Et puis en rugby, je rappelle que le 15 de France s'est incliné une troisième fois consécutive hier soir face à la Nouvelle-Zélande. Défaite 29 à 19 pour le dernier test match des Bleus chez les All Blacks. En tennis, la révélation française du dernier tournoi de Roland-Garros, Loïs Boisson, jouera à 22 ans la finale du tournoi de Hambourg face à la Hongroise Anna Bandar. Elle visera son premier titre ce soir sur le circuit mondial. De la boxe et le Philippin Manny Pacquiao qui faisait à 46 ans son retour sur les rings après 4 années de retraite, et il a tenu tête à l'Américain Mario Barrios, qu'il a même cru avoir dominé, mais les juges ont donné match nul sous les huées d'ailleurs de l'arène de Las Vegas. Un juge a donné l'avantage à Barrios, les deux autres juges n'ont pas pu départager les boxeurs. Barrios a ainsi conservé sa ceinture WBC des Welters, même si Pac-Man, comme on l'appelle, a montré énormément de combativité pour un vétéran qui affrontait un boxeur de 16 ans, son cadet. Et puis, un mot de MMA avec un combat de légende. C'était cet après-midi pour nous entre Dustin Poirier et Max Holloway, les officiaux.
Après 14 ans dans la cage, The Diamond, Dustin Poirier a tiré sa révérence. Il a versé quelques larmes, déposé ses gants au centre de la cage à l'issue de son dernier combat. Parce que oui, avant de quitter l'UFC, l'Américain de 36 ans s'est offert une dernière danse dans un choc de légende contre Max Holloway, ancien champion des poids plumes, les moins de 66 kilos. Malheureusement, l'Hawaïen était trop fort. Le plus grand combattant n'ayant jamais remporté la ceinture de champion à l'UFC fait donc ses adieux sur une défaite. Il aura tout de même tenu les 5 rounds de 5 minutes et même fait vaciller Max Holloway lors du deuxième round. Max Holloway conserve lui sa symbolique ceinture BMF, ceinture mise en jeu lors de rencontres entre fortes personnalités de l'UFC.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Le sport en Calédonie, du karting à la une, avec une nouvelle manche du championnat territorial qui se déroulait ce matin sur le circuit de Nakutakoin. C'était notamment l'occasion pour les meilleurs jeunes pilotes de se préparer aux prochaines échéances en Australie. Deux d'entre eux ont du talent et ils le prouvent régulièrement.
Je m'appelle Luca Padovez-Robo et j'ai 15 ans. Je pars premier et je finis premier dans la première course. C'est toujours bien de faire des compétitions ici. Bah, c'est chez moi en fait, donc j'adore faire les compétitions ici. La semaine prochaine, je pars en Australie pour le championnat, la quatrième manche du championnat d'Australie à Ipswich. C'est dans la banlieue de Brisbane. J'aimerais bien faire la finale parce qu'on est près de 80, donc c'est mon principal objectif. Donc je fais le maximum ici.
Je m'appelle Raphaël Gilles, j'ai 11 ans et je suis pilote de karting. C'est vachement bien vu qu'on fait une compétition avec des amis. Donc pour moi, c'est pas trop une compétition parce que l'Australie, ça compte un peu plus pour moi vu qu'on cherche des sponsors. Du coup, bah voilà.
T'as déjà réfléchi à quoi faire par exemple une fois que tu seras encore contre les Australiens?
Bah, les doubler, prendre bien mes points de corde, accélérer où il faut et freiner.
Toi, c'est quoi qui te plaît le plus dans le karting?
Bah, de tourner le volant, d'aller super vite et de jouer avec un peu les copains, de faire des bataille et ça.
Le karting qui parvient tant bien que mal à poursuivre ses activités et à attirer toujours plus de public sur un site privilégié à Dimbéa. Et les jeunes pilotes répondent au rendez-vous. Damien Robot est le président de l'association sportive du karting calédonien.
Il y a de plus en plus de jeunes là, qui se remettent aux cartes
Et il y en a qui ont 6 ans. Et en fait, en compétition, ils iront à partir de 7 ans. Et là, on a des catégories qui roulent et ils ont entre 12 et 15 ans. Ils sont à fond et c'est des passionnés. En plus, c'est ce qui est le plus important. C'est d'avoir une jeunesse qui est très motivée et passionnée par la discipline. Ben, c'est du positif qu'on ait pu reprendre normalement nos compétitions. C'est pas simple avec le contexte qu'on traverse, mais on montre qu'on est toujours là et c'est très important pour le public pour montrer qu'on est là et qu'on est présent aujourd'hui encore.
Les courses pour toutes les catégories d'âge se poursuivaient au long de la matinée. Une trentaine de pilotes étaient au rendez-vous sur le circuit de Nakutakoin. De la pétanque avec le tournoi de Kumak, qualificatif pour les Océania de doublette mixte qui se poursuit ce soir. Les prétendants au déplacement à Wallis et Futuna s'affrontent depuis ce matin. Ingrid Laurent est la présidente de la Ligue calédonienne de pétanque.
Les favoris, nous avons la SPTT pétanque, Camille Outé et Irène Togiaki. Ils ont été à Tahiti, ils ont été déjà dans les Océania, donc ces personnes-là sont déjà assez rodées. Et là, ce soir, on a des nouvelles têtes. Donc, on a les Boules du Mont d'Or qui sont en train de disputer leur match avec ADPK, qui est aussi un club qui existait il y a un moment de ça et puis qui est revenu sur le devant de la scène cette année. Ah, ben écoutez, hein, l'ambiance, c'est très convivial, c'est très familial. Mais sur le terrain, ils se font pas de cadeaux. Hein, ça joue, il y a du sérieux et puis les gens s'engagent vraiment parce qu'ils savent derrière qu'il y a un voyage à la clé. Mais c'est pas tant le voyage à la clé qui les motive, hein, c'est le fait de porter les couleurs de leur pays aux Océaniens.
Les Océaniens de pétanque en doublette mixte se disputeront du 16 au 20 octobre à Wallis et Futuna. Les amoureux de sport en pleine nature avaient rendez-vous ce matin au parc provincial des Grandes Fougères. L'association Raid la Piste organisait un trail pour la bonne cause qui a rassemblé 534 concurrents. Frédéric Barsac, président de l'association Raid la Piste et directeur de course.
Bah, ce qui est chouette, c'est qu'on a les expatriés qui nagent avec nous là en ce moment. Donc il y a Chris Anderserda notamment et puis Renzo Eden Mufana. Qui sont présents et donc bah, c'est chouette de les avoir dans les bassins. Et puis bah, Renzo là cet après-midi sur la finale du 100 mètres brasse, il a réalisé sa meilleure performance de l'année, donc on voit que ça présente aussi un intérêt à ce niveau-là. Disons que ça permet à nos nageurs d'aller peut-être encore de progresser et puis d'aller améliorer leur temps et peut-être figurer dans les 30 meilleurs nageurs français de leur année d'âge pour pouvoir derrière avoir un statut de sportif de haut niveau et notamment espoir. Il y a une autre échéance pour certains nageurs, on a prévu d'aller à Tahiti en octobre, là, faire les championnats de Polynésie. Et effectivement, cette compétition, elle compte, puisque bah, les nageurs qui auront fait les temps de la grille pourront participer à ce regroupement-là.
Et c'est dès maintenant qu'on prépare les futures plus grandes échéances. On parle forcément des Jeux du Pacifique.
Oui, c'est aussi maintenant, je pense, qu'on donne le cap et puis bah, qu'on donne de la perspective aux nageurs pour pouvoir se préparer au mieux pour cette échéance-là.
Et vous l'aurez rectifié de vous-même, il s'agissait cette fois de natation, évidemment, avec les championnats de Calédonie, la dernière étape de la saison qui se déroulait aujourd'hui à la piscine de Coutiou. Il s'agissait de Stéphane Tigeon, cadre technique de la Ligue de Natation, avec 130 nageurs qui étaient au rendez-vous tout au long du week-end. Je vous propose à présent d'écouter Frédéric Barsac, donc le président de l'association Raid la Piste, au sujet de ce raid qui se déroulait ce matin au parc des provinciales des Grandes Fougères.
Ben sur place, ce matin, on avait des craintes parce qu'ils avaient annoncé de la pluie. Et en fin de compte, ça s'est levé rapidement, donc on a eu vite du soleil. C'était boueux, mais les concurrents tous étaient satisfaits, surtout ceux du 24 km pour la cascade. Ils ont pris plaisir à découvrir des parcours sur différents sites. En tout cas, c'était bien apprécié, même sur tous les parcours.
Et côté résultat, c'est Florian Marot qui s'est imposé sur la cascade running conseil de 24 km devant Antoine Barguin et Leslie Novicki. Sur la transversale au Mont d'Or, parcours de 14,8 km, victoire d'Arnold Lisman. Audrey Montet a terminé première chez les féminines, 15e au classement scratch. Voyons en bref le reste des résultats sportifs sur le territoire avec vous, Léo Fichot.
Et on démarre en mer. Le Cercle Nautique Calédonien organisé ce week-end la troisième manche de son challenge croiseur Sirius Solar. Avec des conditions météo défavorables hier, une seule manche a pu être validée pour les 15 concurrents. En temps réel, comment en compenser? C'est Pulpito MLS FCD qui s'est imposé. Ce dimanche, c'était en double que les concurrents étaient disputés la compétition. Le vent était cette fois-ci au rendez-vous. En temps réel, comment en compenser? C'est BNC MyNet, skippé par Michel Quintin, qui cette fois l'a emporté. En tennis de table, s'est déroulé ce week-end le 20e tournoi territorial de tennis de table, donc du côté du Mont-d'Or. 77 joueurs étaient inscrits. En division 1, Jérémy D de l'Olympique a dominé Adrien Perrault du Mont-d'Or en finale. Et puis je rappelle qu'en football, hier avait lieu l'avant-dernière journée de Super League. Dans le groupe A, Tigaspor s'est imposé 2-1 sur le Mont-d'Or. Gaïcha et Horizon Passo ont fait match nul 1 partout. Dans le groupe B, victoire 5-3 de Magenta sur Saint-Louis et victoire 4-0 de Lossy sur Nedjeu.
Et puis un coup d'œil aux résultats de nos sportifs, cette fois hors du territoire.
Les championnats de France d'athlétisme. Loanville, la licenciée de Koumak, a réalisé le meilleur temps des séries sur le 400 mètres pour se hisser en finale avec un chrono de 59 secondes 90 centièmes. Leslie Filitoulaga a décroché un titre de champion de France en lancer de poids avec une performance de 14 mètres 40 chez les Espoirs. Daniel Filitoulaga s'est lui qualifié pour la finale au poids junior avec déjà la deuxième meilleure performance des qualifications pour le licencié du Mont d'Or. Et puis en para-athlétisme, des cagous ont brillé au championnat élite de Belfort. La délégation calédonienne a remporté 8 médailles d'or, 2 médailles en argent et 2 médailles en bronze. Pierre Fairbanks s'est notamment illustré en s'imposant sur le 100, le 400 et le 800 mètres fauteuil. Anna Pipisega a remporté le lancer de poids fauteuil et le lancer de javelot. Vittorio Cavacava a lui décroché l'or sur le lancer de poids fauteuil, mais aussi sur le lancer de javelot fauteuil. Enfin, Félicien Siapo a remporté le 200 mètres ambulant. Et puis en tennis, on rappellera que Nicolas Ngodrella et l'équipe d'Océanie-Pacifique se sont inclinés face à l'Irak. C'était lors de la Coupe Davis.
Il est 18h passé de 15 minutes, l'heure de la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les couleurs de la météo, c'est avec vous, Pierre. Les détails de cette météo, les couleurs du ciel, au choix.
Les couleurs du ciel de la nuit.
Allons-y.
Cette nuit, quelques faibles ondées continueront de balayer le sud de la côte ouest ainsi que les îles Loyauté. Toutefois, une tendance à l'assèchement du temps se confirmera progressivement. Le vent s'orientera au sud à sud-ouest, soufflant généralement autour de 10 nœuds. Il se renforcera entre 10 et 15 nœuds aux extrémités nord et sud et localement dans les vallées de la côte est. Les températures entameront une légère baisse sur la côte ouest, oscillant entre 18 et 20 degrés. Elles resteront plus élevées sur la côte est et l'extrême nord, où le thermomètre affichera entre 20 et 22 degrés. Demain matin, une couverture nuageuse étendue dominera le ciel, donnant lieu à quelques averses depuis le nord de la Grande Terre jusqu'au Loyauté. Le vent de secteur sud à sud-ouest soufflera autour de 10 nœuds, avec des pointes plus marquées attendues, notamment aux extrémités de la Grande Terre et à la sortie de certaines vallées de la côte est.